Unaforis.
Du côté de l'Unaforis. Un acteur de l'économie sociale et solidaire.
Unaforis.
Sur le trottoir d'à côté.
La web radio de l'intervention sociale.
Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale.
Unaforis.
Sur le trottoir d'à côté.
Thierry Delamarre, je suis cadre pédagogique à l'IRTS Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, Talence.
Caroline Burgi, je suis formatrice à l'ISSM, Institut supérieur social de Mulhouse.
Et donc Samuel Garnier, responsable de la formation des cadres à l'IFTS de Grenoble, particulièrement Échirolles.
Voilà, donc vous voyez, on constitue déjà un groupe miroir. C'est-à-dire que ce qu'on vous propose là ce matin, c'est vraiment très rapidement, on a collecté des informations qu'on a déjà pu entendre ce matin. C'est un document martyr, mais l'idée c'est que comme une boule de neige, on commence petit à petit, puis après, on puisse formaliser. On n'oublie pas, un petit clin d'œil à Philippe Le Bailly, qui, sur la communauté des pratiques, œuvre aussi de son côté, donc notamment pour la rédaction de ce guide. Il a besoin de nous, nous avons besoin de lui. L'idée aussi, c'est qu'il y ait une articulation entre notre groupe et le groupe de la communauté des pratiques.
Moi, ce matin, en écoutant, j'ai trouvé ça très intéressant. Et dans le fond, je me suis rendu compte que... j'avais eu beaucoup de chance parce que, dans le fond, c'est en participant moi-même à des actions concrètes de formation dans lesquelles étaient impliqués à la fois des professionnels, des étudiants, des personnes ressources et des formateurs que, dans le fond, j'ai appris un certain nombre de choses. Et du coup, c'est comme si cette journée venait aussi alimenter évidemment des questions parce que toutes les questions qui ont été posées du côté du comment faire, les outils méthodologiques, etc., ce sont des questions importantes qu'on a à mettre au travail. Alors peut-être juste dire que c'est vrai que j'ai pu participer, alors je n'ai pas voulu le présenter là parce que je l'ai présenté à la dernière journée sur la professionnalisation, l'action du théâtre législatif qui est une action importante au sein du centre de formation dans lequel je travaille, qui, à partir du Théâtre Forum, va et pousse une question, un point de butée, une question qui est un peu du côté de l'oppression, à la dimension législative, avec des décideurs, des aviseurs. Et donc, dans cette action qui réunit une soixantaine de personnes, à la fois des étudiants, mais aussi des personnes concernées et des professionnels. Donc, voilà, ça, c'est une des actions qu'on mène depuis 2 ans et qui va continuer cette année. Il y a eu aussi une action très importante depuis 3 ans qui a été autour d'un séminaire, d'un axe de recherche collaborative autour de la question de l'insécurité alimentaire qui a duré 3 ans et qui a mis à la fois dans le cadre d'une dimension internationale mais aussi sur le territoire avec des chercheurs, des personnes, donc des personnes qui faisaient partie d'associations, Bouche ta galère, ATD, etc., donc des gens très impliqués, et des étudiants, ont travaillé autour de cette recherche pendant 3 ans et ça a donné lieu au mois de novembre à un colloque. Moi, j'ai plus envie de lancer comme ça 2-3 actions quoi, hein, dans lesquelles j'ai participé, mais après, c'est vrai que moi, je suis aussi très intéressée pour... entendre ce qui peut se passer ailleurs et compléter et confronter aussi nos expériences. Et puis j'ai eu la chance, alors ça c'était une expérience véritablement intéressante à l'automne, de participer à un forum social à Bruxelles, forum social dans lequel on a été une vingtaine de Mulhousiens à participer, formateurs professionnels, personnes concernées toujours, hein. Avec des Belges, on a travaillé sur la question du logement, du non-recours, du droit au logement et de la question du non-recours, de travailler de manière assez interactive et pour aboutir à un forum social d'une journée où 300 personnes ont participé. Et moi-même, j'ai eu l'occasion de travailler avec une personne sur la question de l'intégration de la parole de alors, la personne concernée à l'évaluation des dispositifs médico-sociaux. Donc ça, je trouve aussi que c'est une dimension qui est... Pour moi, c'était une dimension presque un peu nouvelle. Hein. Moi, je trouvais que c'était vraiment tout à fait intéressant de travailler sur cette question. On a travaillé avec, avec la personne accompagnée ensemble une journée, à la fois à l'animation et à la préparation d'un atelier qu'on a animé ensemble le lendemain au forum, mais aussi à l'élaboration d'un début de texte où on travaillait sur ces questions, mais aussi où on interrogeait les freins, les limites, etc. Donc ça, c'était aussi tout à fait intéressant et une expérience tout à fait innovante, en tout cas pour moi. Bon, je vais peut-être m'arrêter là parce que j'aurais encore envie... Il y a ce que j'avais envie de dire qui me semblait intéressant, en tout cas en écoutant ce matin et puis en réfléchissant à ces différentes actions. Et les différentes actions auxquelles on participe ont des effets sur la suite et amènent à d'autres actions et où tout d'un coup, c'est la question des personnes concernées est quasi présente de manière presque naturelle à un moment donné. Voilà. Mais ça, c'est l'expérience, les rencontres, les actions. Et puis, c'est une question de territoire, puisque moi, je me rends compte que sur le territoire mulhousien, notamment, évidemment, les différents acteurs mobilisés sont présents à différents endroits. Voilà.
Bien, merci. Du coup, pour continuer dans cette dynamique que les collègues ont lancée, effectivement, donc au colloque de Power Us à Toulouse, on a pu distinguer différentes modalités de participation que sont le témoignage, l'intervention et la formation. Les trois nous paraissent intéressants. Les trois vont dépendre aussi de là où vous en êtes dans vos écoles de formation. On le verra peut-être cet après-midi, encore une fois, de manière plus proche. Le témoignage, en tout cas, à un résultat peut-être séduisant, peut-être effectivement qui amène, je dirais, peut-être beaucoup d'intimité au niveau des personnes, mais pour accompagner des personnes concernées par la précarité dans un collectif qui s'appelle le collectif Soif à Grenoble, soif de connaissance. Alors Soif parce qu'il y a trois entités, S comme l'école sud-est de Rhône-Alpes, comme le Haut des Nords, donc le laboratoire, l'observatoire du non-recours au droit, I comme l'IFTS, donc l'école de formation dont je fais partie, et F comme la FAS, donc la Fédération des acteurs de la solidarité. Et du coup, de ces quatre entités, on a pu dégager et vivre des moments assez forts où effectivement les personnes, par moments, ont voulu nous faire part de ce qu'elles vivaient, de ce qu'elles avaient vécu. Et même si c'est délicat, cette question-là, qui ATD Quart-Monde nous avait mis en garde, enfin, en tout cas, moi, j'ai un parcours universitaire en sciences humaines, j'ai pu le lire, je le lis aussi dans les différents rapports qui ont été cités ce matin. Néanmoins, cette phase-là est quand même très intéressante. Et si on est dans une éthique de la parole, si on est bien dans cette réciprocité, on a au final une meilleure connaissance des uns et des autres et on peut trouver peut-être aussi des modalités pour mieux faire connaissance ensemble. En tout cas, la liberté de parole est peut-être un exercice qui n'est pas simple, mais qui paraît effectivement obligatoire dans ces moments-là pour mieux appréhender qui nous sommes, qui sont les personnes présentes, que ce soit du niveau des personnes concernées. Alors, c'est dans notre groupe qu'à un moment donné, une personne a dit bah, « moi, j'en ai un peu assez qu'on m'appelle personne concernée dans votre groupe collectif Soif ou dans mon groupe ». Et elle a dit « moi, je suis une ressource pour vous » et elle a proposé effectivement ce terme de personne ressource qui soit utilisé aujourd'hui. Nous, on trouve ça super. Je pense qu'elle en est très contente. Maintenant, comme ça a été dit ce matin par Marcel Jaeger, il y a d'autres modalités derrière qui peuvent être utilisées. En tout cas, dans ces quatre entités, dans ces regards croisés, dans ces savoirs émancipatoires, au sens de Geneviève Tardieu, pour nous, il y avait cette question de vraiment mieux se connaître. Et finalement, ce qui a été très difficile, c'est peut-être dans ces quatre groupes, les professionnels d'un côté, les formateurs de l'autre, les chercheurs d'un autre côté et les personnes ressources enfin, eh bien, c'est que vraiment chacun a sa culture. Chacun a sa façon de faire et dans l'interrogation, enfin, ou la remarque qu'on avait ce matin, je dirais que François Soulage dit qu'on est toujours dans une dynamique effectivement descendante. Je crois qu'effectivement, il faut être dans une approche systémique, qu'il faut être dans cette dynamique effectivement ascendante. Mais une fois qu'on l'a dit, comment on le réalise, c'est assez compliqué. même dans notre groupe où on avait, je dirais, mis en place beaucoup de choses très intéressantes, où l'éthique de la parole était, a été travaillée, où l'accessibilité des propos pour tous les participants à ce collectif Soif était une garantie, eh bien, parfois, on a tous dérapé à un moment donné. Soit les personnes concernées à un moment donné pouvaient être dans une radicalité, dans un moment un peu d'agressivité, de violence, de conflit, au tout début de la naissance du collectif. Mais ça, c'était plutôt très intéressant, ce conflit, cette liberté de parole. Mais les chercheurs pouvaient être pris dans, justement, leurs mots savants, qui étaient incompréhensibles pour d'autres dans le collectif. Et puis, les travailleurs sociaux pouvaient prendre, et les chefs de service, entre autres de CHRS qui étaient présents, pouvaient prendre un peu la mouche, se sentant attaqués à plusieurs reprises, remis en question. Donc ça, c'était vraiment au départ. Et enfin, les formateurs que je représentais, on est trois en Rhône-Alpes à faire partie de ce collectif Soif, eh bien, on avait, je dirais, nos ambitions, nos objectifs, nos enjeux de formation, et puis aussi nos difficultés à changer, ça a été dit tout à l'heure, aussi les collègues formateurs qui sont plutôt, je dirais, résistants pour des innovations pédagogiques. En tout cas, au départ de ce collectif, il y a du conflit, il y a de la difficulté. Petit à petit, grâce effectivement à partir du moment où on a défini des objectifs communs sur un module que l'on souhaitait réaliser, que les personnes souhaitaient amener concrètement pour améliorer la formation en travail social, eh bien, les choses ont pu, je dirais, avancer progressivement. Pour les personnes ressources, en tout cas, c'était vraiment une modalité de mieux apprendre à se connaître pour libérer leur parole. Un autre point qui nous est paru important aussi, c'est pour qu'il y ait vraiment de la participation, au sens de Yann Le Bossé, donc développement de pouvoir d'agir, je dirais un peu radical, ou en tout cas social, mais pas du tout néolibéral. Dans les différentes modalités du développement de pouvoir d'agir, il nous paraît important quand même de les identifier. Pour qu'il y ait participation, il faut qu'il y ait responsabilité. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans notre collectif sont responsables, ont des fonctions de responsables quand ils vont donner eux aussi la formation pour les étudiants. Et donc ils sont payés, ça aussi ça a été dit tout à l'heure, c'est un frein, en tout cas pour nous c'est dans notre éthique, mais c'est quelque chose qui change au niveau de l'organisation de notre école de formation. Et du coup, cette responsabilisation, tout en étant tous accompagnés les uns envers les autres, eh bien, nous paraît importante pour effectivement faire évoluer les choses. Un dernier point, parce que je ne vais pas m'attarder sur le collectif que je représente, mais je vais aussi évoquer les autres modalités d'intervention, où mes collègues le feront, puisque je prends un peu trop la parole. Un autre point, c'est qu'effectivement, pour qu'il y ait responsabilité, du coup, on travaille sur cette notion de travailleur pair, de formateur pair. On travaille depuis 2 ans dans ce collectif et je dirais qu'il y a un point qui est aussi essentiel pour nous, c'est que ces personnes, à force de communiquer, ces personnes ressources, à force, je dirais, de participer aux réunions pédagogiques, à force d'être présentes lors de colloques, finalement deviennent aussi expertes et, je dirais, peut-être un peu trop expertes par moment, et on perd un peu la spontanéité qu'il y avait au début. Je reprends leurs propos. À chaque fois, bien sûr, c'est des propos qui ont été énoncés dans nos collectifs. Et elles s'imaginent maintenant plutôt formateurs des prochaines personnes ressources qui vont venir dans le collectif. Ça nous paraît aussi une dynamique importante. Et tout ça, toujours pour favoriser cette phrase laïus qui est venue régulièrement, entendre comment l'autre, l'accompagné, nous perçoit. Ça, c'est quelque chose pour nous qu'on n'a pas envie de perdre dans cette perception. Et puis enfin, je dirais cette dynamique au niveau du collectif et puis des témoignages, interventions, formations qui ont été distinguées lors du séminaire Power Us, je dirais qu'on est là aussi comme finalité pour favoriser une gouvernance participative, c'est-à-dire au sein de l'école de formation, donc l'IFTS des Chirolles. Eh bien, dans le conseil d'administration, dans les réunions importantes où il y a des enjeux, des prises de décision, eh bien, les personnes ressources sont présentes et devront l'être davantage. Donc, effectivement, avec prochainement des formateurs pairs dans le prochain, budget, projet en tout cas d'établissement. En tout cas, c'est des points qui sont ressortis, mais qui sont pas simples, je dirais, à échanger. En tout cas, moi, je peux juste dire sur ce qui m'a marqué dans ce séminaire de plusieurs jours, sur les interventions qui existaient au niveau européen. Il y a eu plusieurs expériences qui m'ont parlé. Entre autres, effectivement, comment au niveau universitaire, eh bien, les universitaires, eux aussi, allaient perdre un petit peu leur place, je dirais leur place haute, et comment ils vont pouvoir aussi donner la parole aux personnes. Pour cela, il y avait différentes expériences qui étaient tout à fait pertinentes. Vous ne voulez pas les présenter, celles de... Non.
Bon, Lydie, on va pas redévelopper. Je pense en plus qu'il va bientôt y avoir le compte-rendu certainement de Philippe sur ce séminaire. Bon, l'idée, n'écartons pas le témoignage. C'est peut-être la première étape, on va dire. Deuxième étape, on est vraiment sur la question de la co-construction. Comment on fait participer la personne dans la programmation, dans le contenu et dans l'intervention pédagogique. Et puis après, se pose la question de la formation, un module. Type, donc à chacun d'inventer bien sûr les choses qui pourraient se faire. On va dire c'est un petit peu cette fusée à trois étages qu'on a pu identifier. On a pensé aussi aux petits scarabées parmi vous, c'est-à-dire que depuis ce matin il se pourrait que parmi vous, disant mais moi j'identifie absolument pas une progression, j'identifie pas encore mon établissement mature sur cette question-là, on n'a absolument pas planché en réunion pédagogique, qu'est-ce que je fais? Alors les petits tuyaux que l'on vous donne, c'est quand même de l'institutionnaliser, ça commence déjà par une recherche interne. Alors si vous faites par expérience un envoi email à l'ensemble des collègues IRTS Nouvelle-Aquitaine, c'est 25 à 30 cadres pédagogiques, vous recevez que deux réponses. Et là, vous vous lamentez, vous pleurez. Et vous dites, décidément, on est mal engagé. Et puis au final, non, c'est peut-être la culture de l'oral dans nos disciplines, parce que lorsque vous allez avec votre petit magnéto en disant, est-ce que tu peux me consacrer un peu de temps? Qu'est-ce que tu fais dans la formation, dans ta formation, qui pourrait concerner la participation des personnes ressources? Et là, j'en suis à 15, 16, 17 interviews, avec des choses mais d'une richesse, vraiment des pépites. Mais ça pose quand même question de la communication à l'intérieur de nos établissements. Quelle est-elle? Est-ce qu'on se communique déjà en interfilière? Avant déjà de faire réseau à l'externe, déjà en interfilière, il se pourrait que nous découvrions là des pépites qui se déroulent. Alors pourquoi aussi l'idée aussi la question de l'évaluation, comment je vais incorporer ces interviews, comment je vais identifier ce qui se passe dans mon établissement et comment je peux y mélanger la question de l'évaluation des formateurs eux-mêmes qui sont on va dire là les maîtres d'œuvre et l'évaluation des étudiants. Et bien souvent, d'ailleurs, l'évaluation des étudiants sur ce type d'espace est toujours extrêmement bien notée. C'est toujours des prises de conscience, des témoignages, des choses qui vraiment donnent la question du savoir vécu, on va dire. On a parlé de savoir instruit, de savoir. Il y a aussi le savoir vécu. Et à ce moment-là, il est identifié en termes d'évaluation pour les étudiants comme de jolis espaces. Alors, l'idée est pourquoi nous encourageons à poursuivre ce chemin du faire, F-E-R. Un, pour pouvoir être en capacité de faire réseau demain, pour le F. Le E, pour un échange des pratiques. N'ayez pas peur, hein, si on est des petits scarabées, on va pouvoir se servir de ce que les pionniers ont pu déjà mettre en place, là où ils se sont cassés un peu la figure, là où ils ont pu s'y relever des fausses notes, ou au contraire, ce qui marche bien. Donc on va pouvoir aussi se servir, si on fait réseau, si nous parvenons à faire réseau, se servir effectivement de leur expérience. Et à la fois, il faut reconnaître aussi qu'il y a le local, il y a le territoire, il y a ce qu'on va pouvoir faire dans le sud-ouest qui ne va pas ressembler à ce qu'on va pouvoir faire dans les Hauts-de-France. Il y a aussi des personnalités qui sont phénoménales dans certains collectifs, des usagers qui, on dit plus usagers, des personnes ressources, qui effectivement vont pouvoir colorer aussi une formation et ça... Bon, c'est aussi les pépites qu'on peut avoir sur un territoire. Donc le E pour l'échange de pratiques et le R pour la reconnaissance institutionnelle. On vous invite vivement à très vite faire remonter ce type d'informations, en tout cas que vos directions puissent être associées et qu'on puisse identifier peut-être demain. Je vous laisse là aussi juge par rapport à nos travaux cet après-midi. Est-ce que nous aurons besoin d'un référent par établissement ou pas pour pouvoir s'identifier, échanger? Là, on laisse bien sûr les idées qui pourraient naître et apparaître cet après-midi. Juste pour cette question-là, avant de laisser la parole à Samuel. Bon, l'idée, c'est les 4 P, quoi. Le plus petit pas possible. Le plus petit pas possible sur ces questions-là. Ne mettons pas la barre trop haute. N'allons pas sur des objectifs vraiment qui seraient difficiles à atteindre. L'expérience déjà des copains et des copines sur le sujet, c'est vraiment de commencer avec un petit groupe, avec méthode, mais vraiment de ne pas se fermer avec des objectifs qui seraient vraiment trop lointains, mais juste avec... un savoir-faire et un savoir-être sur le terrain. Voilà, Samuel, je te laisse la parole.
C'était juste par rapport à la communauté de pratique, parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs questions et je pense que ce n'est pas clair pour tout le monde. Donc la communauté de pratique, c'est un lieu de circulation, d'échange. Donc l'UNAFORIS est l'ensemblier, mais on travaille avec des établissements du réseau UNAFORIS. On travaille avec des partenaires, dont le HCTS, dont ATD Quart-Monde, l'ANSA, l'UNIOPS, l'Armée du Salut, le CNPA. Et on travaille aussi avec des personnes ressources. L'objectif, c'est la rédaction du guide. On a déjà défini 3 parties. Le guide aura une première partie cadre d'action commun, les modalités de mise en œuvre, les perspectives, donc suivi, évaluation, mesure d'impact, valorisation et SMH. Le format atelier, il est complémentaire avec la communauté de pratique. Alors, je m'explique, c'est notamment pour la partie 2, les modalités d'intervention. Toutes les ressources que l'on a dans le réseau, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. J'ai mis en place un Padlet. Je ne sais pas si tout le monde l'a reçu, mais voilà, c'est fait pour ça, en fait. N'hésitez pas à revenir vers nous directement. Vous pouvez mettre des documents dans le Padlet qui enrichiront nos travaux et permettront d'enrichir la rédaction du guide.
Merci pour cette présentation. Donc, nous avons eu l'occasion de mettre en place une action de formation un peu différente qui a consisté à professionnaliser, former des travailleurs pairs. L'enjeu, ça a été pour moi, et en construisant une petite équipe de collègues formateurs totalement partie prenante, parce que ça renvoie à une autre question qui a été dite tout à l'heure et qui est tout à fait pertinente, c'est que tous les formateurs ne sont pas forcément intéressés pour réfléchir à tout ça, et ça se, voilà, ça se respecte aussi tout à fait. Et ça a été effectivement avec l'Armée du Salut et avec la direction à l'hébergement et à l'insertion et au logement, DIAL, de voir pendant un an, ça a été ça l'enjeu en fait qui m'a été posé et que j'ai pu aborder avec les collègues et les 9 travailleurs pairs, voir comment une action de formation pouvait pendant un an, septembre dernier jusqu'à juin à peu près, soutenir l'insertion professionnelle de travailleurs pairs. Ça a été très intéressant parce que ça rejoint pleinement, hein, moi je m'y suis complètement retrouvé dans ce que vous avez dit, sur de nombreux points, avec les modules construits, les apports environnementaux, théoriques, pratiques, etc. Et puis derrière, évidemment, la question de la pérémulation qui a été tout à fait importante et qui a maintenu complètement l'exigence pour nous, formateurs, d'adapter toujours, au-delà des contenus, finalement, la formation rendue à ces personnes, travailleurs pairs. Il y a 2 questions, je vais la faire courte, évidemment. Il y a 2 questions importantes qui sont d'actualité. Qui sont, finalement, les futurs formateurs pairs, personnes concernées, personnes ressources, qui seront amenées à travailler avec les centres de formation? Et c'est des vraies questions, hein. C'est pas forcément des questions très, j'en conviens, politiquement correctes, mais c'est pas grave. Sur quels critères on sélectionne les personnes? Qui nous envoie les personnes? C'est-à-dire les employeurs, les associations. Quelles sont les conditions de restauration ou pas pour faire partie d'un collectif de travail avec les centres de formation? Parce que la question de la restauration se pose absolument. Parce qu'on peut aussi, moi c'est des critiques qu'on m'a faites, hein. On peut aussi imaginer que les travailleurs pairs, les formateurs pairs, les médiateurs pairs ne sont pas forcément totalement rétablis, etc., etc., et que ça crée des problèmes parfois dans la proximité avec le public et ou avec leur propre vécu. Donc, vraie question. Et deuxième question que je trouve intéressante, que j'ai vraiment pu travailler, je travaille encore avec Patrick Brunteau, qui est sociologue, et qui, lui, est vraiment sur un segment qu'il qualifie de sous-prolétariat. Ça veut dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, bon, ça ne remet pas en question les enjeux de la participation, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça renvoie à la question du statut des personnes. Est-ce que ce sont des personnes bénévoles ? Ce n'est pas pareil si ce sont des questions salariées. Est-ce qu'on ne peut pas penser que la question de la participation, pour qu'elle soit réellement effective, renvoie à la question identitaire qui elle-même renvoie à la question du salariat, de la salarisation, donc du salaire ? Jusqu'à présent, la plupart des travailleurs pairs sont des travailleurs pairs en contrat aidé, ce qui n'est pas rien. Hein. Je veux dire, c'est politiquement, c'est tout à fait intéressant à travailler d'ailleurs. Mais du coup, ça pose une autre question qui est mise en évidence par des travailleurs sociaux, qui consiste à dire qu'on peut aussi déqualifier le travail du travail social, le confier à des travailleurs pairs, des médiateurs de santé pairs, etc., au nom non seulement d'une qualification du travail social, mais au nom de la participation des personnes. Donc il y a un vrai débat idéologique, politique et économique dans une économie libérale qui consiste à voir comment on salarie ces personnes. Moi, j'y crois personnellement, je pense qu'il faut salarier des travailleurs pairs, vraiment, quoi, parce que ce n'est pas le même statut qu'être bénévole, et qui renvoie à une autre question, je termine, qui est celle de la place des savoirs expérientiels. C'est bien au nom des savoirs expérientiels, des savoirs d'expérience, des savoirs du vécu, et donc des compétences à édifier autour de ces savoirs, que ces travailleurs pairs, formateurs pairs, médiateurs de santé pairs, voilà, peuvent prendre une place entre des équipes de travailleurs sociaux diplômés d'État, ou de futurs travailleurs sociaux, et des publics, des personnes, au nom d'un concept qui est retravaillé, qui est celui de la proximité. Voilà.
Bonjour, Evelyne Ivar, je suis formatrice à l'IRTES de Dijon. On s'engage collectivement dans ce travail-là. Moi, j'ai deux questions à partir de vos expériences. Hein. Est-ce que vous avez mis en place avant, après, pendant, enfin, quid de la participation des étudiants à la co-construction de la formation ? Est-ce que c'est un préalable ? Est-ce que c'est indispensable ? Est-ce que ça vient après ? Est-ce que, voilà. Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième question, voilà, on peut travailler avec des associations de représentants des personnes. Est-ce que ce travail ne présente pas un risque de faire écran, hein, de faire écran par rapport à notre capacité à rentrer en contact avec les personnes directement ? Et puis, comment vous y êtes pris pour rentrer en contact avec les personnes à partir de réseaux, de leur réseau personnel, et voilà, comment vous avez fait.
Pour compléter aussi deux réflexions, questions, Annick Fanget, je suis directrice de l'IRIS de la Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes. La première, c'est sur la déqualification du travail social, parce que, en fait, une petite anecdote, comme on a déjà eu quelques expériences, j'ai eu le droit à me confronter à quelque chose que je n'attendais pas vraiment, naïvement sûrement. C'est une étudiante qui a vraiment très mal pris le fait d'être avec des personnes concernées ou etc., enfin ressources, parce que pour elle, c'était inacceptable. Elle avait fait un travail important pour réussir à le concours d'assistante service social. Elle s'était, malgré beaucoup de difficultés personnelles, familiales et autres, et elle n'arrivait pas à admettre qu'elle puisse être mise au même niveau que des personnes donc usagées. Et ça a été une espèce de crise, entre guillemets, qui a donné lieu à des débats. Et c'est vrai qu'on n'avait pas imaginé, franchement, ce genre de réaction. Donc voilà, c'est à la fois une réflexion, un vécu, puis des questions qui émergent à partir de là. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est sur l'aspect éphémère, pour moi, forcément, des personnes, pères ou ressources, dans la mesure où le but, c'est bien qu'eux-mêmes, en général, évoluent dans leur vie, dans leur soins, santé, etc. Et donc, du coup, comment résoudre, entre guillemets, comme le disait peut-être Madame Le Floch, ne pas devenir finalement un professionnel de la... comme personne ressource, parce qu'à un moment, effectivement, heureusement, et c'est, il me semble, le but, que les situations évoluent. Et il me semblait aussi que pour rester vrai, ce type de personne ressource ne pouvait être que, justement, éphémère, pour moi, puisque changer, être remplacé par d'autres et qui nous demandaient donc un travail réitéré sans cesse. Voilà, pour la spontanéité, pour la réalité du vécu. Je faisais ça, la comparaison entre, par exemple, quelqu'un qui vient apporter un témoignage dans le cadre de l'adoption, qui peut être sur la durée, et puis quelqu'un qui vient apporter un témoignage, ou bien d'autres modalités, évidemment, ou qui intervient dans des groupes de projets, par exemple des étudiants, sur une problématique X à un moment donné. Voilà.
Ce ne sera pas une question, ce sera une remarque. Dans mon centre de formation, on parle beaucoup de formateurs qui auront un profil autre, issus de l'université, avec des thèses, ce qui engage aussi à ce que les formateurs qui ont été des travailleurs sociaux disparaissent. Et du coup, je me dis, mais quelle place peut-on laisser à des personnes qui sont là pour parler de leur expérience quand on a des perspectives qui sont déjà du côté de formateurs permanents, de ne plus avoir ces formateurs qui sont issus, comme on dit, de la clinique, d'une pratique, qui ont aussi un parcours universitaire, mais qui ont aussi une identité d'anciens professionnels. Voilà. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a deux discours, deux niveaux. Et, alors après, c'est peut-être effectivement qu'une expérience qui nous est propre, mais c'est vrai que nous, on valorise beaucoup. En tout cas, le centre valorise beaucoup les formateurs, chercheurs qui sont issus du monde universitaire, avec souvent un décalage entre ces formateurs-là et puis les formateurs qui sont issus du terrain.
Bon, ça va être une salle à niçoise. Hein. On va vous apporter quelques éléments. À la fois, on ne s'est pas spécialement non plus concerté pour vous donner des éléments de réponse. Sur une des premières questions, à quel moment au final on est bénévole et on se sent prêt pour pouvoir être un expert, on va dire, ou un bénévole expert. De ce que j'ai pu entendre dans ma sensibilité, c'est comment, de mon épreuve, j'en ai fait un message universel. Et comment on se rend compte, éventuellement, le temps de la formation. Ça veut dire qu'il nous faudrait nous penser un système de formation qui accompagne la personne à une auto-évaluation de lui-même, on va dire, de sa capacité à pouvoir rendre compte. Et que lui-même puisse se retirer du jeu s'il considère que ça devient dangereux, pour lui-même, ou au contraire, est-ce qu'il a pris une aisance suffisante pour enfin le devenir? Alors, ça voudrait dire peut-être une formation à entrée multiple et sortie multiple, ce qui peut être complexe. D'accord? Ce sujet-là. Sur le sujet, je ne sais pas si au final, Madame Le Floch voudrait parler sur une étudiante qui aurait, à un moment donné... Alors, une considération que j'ai pu me rendre compte avec les travaux sur les admissions. 45% de nos étudiants, de nos candidats à nos formations sont issus de milieux modestes. Enfants d'ouvriers, employés, sans emploi, retraités inactifs. 45%. Si on prend ces chiffres au niveau de l'observatoire de la vie étudiante, c'est 30%. Et il est vrai que pour certains, c'est vraiment dans un désir d'émancipation et d'écart, enfin de se sauver au maximum. Et donc, plus on va rapprocher de la personne et plus on va être dans ce type de problématique. Je pense qu'on a, à mon avis, suffisamment de ressources internes dans nos établissements pour pouvoir le prendre en compte et pouvoir le travailler avec eux. Mais c'est vrai que pour nous, sommes en questionnement sur ces sujets-là. C'est juste là aussi un constat. Hein. C'est juste un constat.
Bon, moi, je vais peut-être plus...
Juste aussi pour la... Pardon, excuse-moi, Caroline. Et après, pour me taire définitivement. Et juste sur la question du comment on les recrute aussi, est-ce que l'association qui est un collectif, une association d'usagers ou autre, n'est pas aussi un garant, on va dire, pour aussi l'orientation d'une personne. Une personne qui aura déjà une reconnaissance par ses pairs eux-mêmes. Une forme de légitimité aussi d'intervention, de prise de parole ou autre, peut-être nous aider à être soutien sur la question du recrutement, entre guillemets, de bénévoles.
Bon, je vais peut-être aller plus sur la question de la deuxième, du côté de certaines modalités, mais à la fois rapidement et peut-être cet après-midi aussi, on pourra aller plus loin sur ces questions-là. Pour les expériences différentes que j'ai, c'est vraiment à partir de modules existants, c'est-à-dire d'actions qui existent déjà pour les étudiants ou à un moment donné. Donc, quand je pense théâtre législatif, historiquement dans l'école, le théâtre existe depuis l'origine de la filière éducative. Donc, elle s'adresse essentiellement aux éducateurs deuxième année. Le challenge, j'ai envie de dire, avec la réarchitecture et avec le travail sur la réforme, ça sera peut-être de voir pour ouvrir cette action à plus d'étudiants, mais pas forcément plus, mais différenciés, pas que les éducateurs, peut-être les assistantes sociales, les éducateurs de jeunes enfants, etc. Peut-être optionnels, bon, je ne sais pas. Il y a vraiment des modalités aujourd'hui à repenser, à construire. En tout cas, c'est vrai qu'on est passé historiquement du théâtre, une pièce à produire où tout le monde joue, à un projet, le théâtre un projet, et sur différents groupes qui aussi allaient vers la mise en scène, à une ouverture du théâtre vers la question citoyenne, la dimension citoyenne et la participation des personnes concernées. Alors, la question des personnes concernées, comment on travaille, comment on les trouve, entre guillemets, avec des partenariats avec d'autres associations, hein, des associations partenaires de professionnels, en l'occurrence, la première année, un CHRS, et puis l'année dernière, un GEM, un CHRS, une structure avec des personnes en situation de handicap. Donc, plusieurs partenaires qui se sont associés à nous et du coup, c'est là où il y a un certain nombre de personnes qui participent et où sont tous réunis ensemble ben, les différents acteurs, j'ai envie de dire, de ces actions. Quand j'ai parlé de l'insécurité alimentaire, c'est à l'origine, on a des monographies territoriales, ateliers de recherche qui, à un moment donné, un groupe d'étudiants travaille et va s'inscrire sur cette thématique-là et ça va être travaillé avec des étudiants de différentes années et dans un processus aussi. Là, je pense à une action qui va avoir lieu. Alors, je pensais aussi participation des étudiants dans les instances. C'est vrai qu'on organise depuis plusieurs années aussi des journées en co-construction, des journées d'études avec le médico-social. Donc, je travaille avec un institut de formation des métiers de la santé. Et c'est vrai que pendant plusieurs années, formateurs des deux écoles, des deux centres, des différentes filières, on a monté des journées d'études. Et l'année dernière, on a invité un étudiant de chaque filière à participer à la co-construction de journées d'études avec nous. Et du coup, ça donne aussi une autre couleur. Hein. Je veux dire, c'est vraiment très intéressant. Là, la prochaine, aussi un carrousel avec deux écoles de Belgique. Et cette année, sur la question de la précarité, et là aussi, ben, grâce à des rencontres hein, de Toulouse, parce que Samuel va venir avec une personne. À Toulouse, on a rencontré aussi une formatrice et puis une personne experte du vécu, même si elle n'aime pas qu'on l'appelle comme ça. Hein. Toute la question toujours de la comment on les nomme, la nomination. Ça, je pense que c'est une vraie question, la sémantique et toutes ces questions-là. Parce que dès qu'on commence à les nommer, ben, ça ne leur convient pas. Quoi, hein. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses à réinterroger. J'avais une dame, elle me disait, je suis partenaire auteur. Voilà, je trouvais que c'était assez joli. Quoi, hein. Mais après, on a beau dire que c'est joli. C'est elle qui l'a dit et ça, c'est pour elle que ça avait du sens. Voilà. Bon, donc c'est vrai que c'est aussi à partir de rencontres, de dispositifs qui existent déjà. Et là, le carrousel, en tout cas avec la Belgique, sur la question de la précarité, ben, sont dans des Belges, des Français, voilà, des gens des Chirolles parce qu'on les a rencontrés. Enfin, il y a aussi cette émulation quoi, hein, autour de rencontres. Et puis, une semaine qu'on prépare avec des étudiants et des gens. Et les gens, d'ailleurs, sont des experts et c'est eux qui viennent, entre guillemets, amener des éléments aux étudiants. Hein, donc, qui, eux, participent plus au travail sur les questions et aussi à l'organisation. Voilà. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est une question qui n'est pas simple parce qu'il y a différents niveaux. Et puis, alors, juste la question du formateur, je ne sais pas. Je pense que ça, c'est encore un autre niveau. Mais moi, je ne sais pas trop comment... on peut rapidement, peut-être...
Ouais, rapidement, je pense que justement, l'idée de ces dynamiques, c'est que ces formations, en tout cas, où il y aurait la personne de plusieurs collèges présentes, favoriser les regards croisés, c'est comment on fait ensemble. Et du coup, ces formations, elles évitent ce type de décalage. Les formateurs-chercheurs, on en a beaucoup dans toutes nos écoles de formation. Ils ont... on a certaines pratiques aussi. On a un biais de dans notre regard. Donc, de fait d'avoir des formateurs qui sont plutôt issus du travail social, qui restent dans cette démarche, c'est tout à fait intéressant. Enfin, à mon avis, voilà, enfin, c'est la richesse des regards qui est importante. Je rejoins Thierry sur le fait que les fédérations, par exemple, des acteurs de la solidarité, la FAS, est un garant pour trouver les personnes ressources qui seraient intéressées pour participer à ces réflexions, que les étudiants aient bien sûr leur place. Ça me paraît important. C'est pas toujours simple, c'est vrai. Les réactions des étudiants sont parfois semblables à leurs aînés, aux professionnels de terrain. Donc du coup, il y a du paradoxe, mais c'est hyper intéressant. C'est des questions à mettre au travail, tout à fait. Et professionnel, quid quand la situation évolue, c'est-à-dire que peut-être quand les personnes, effectivement, les personnes ressources concernées arrivent à s'en sortir, je crois qu'elles ont toujours un regard très intéressant malgré tout. Et justement, avec Odenor, donc le laboratoire de non-recours au droit, on est dans une évaluation, une recherche qui permettrait de voir si ça favorise, je dirais, un épanouissement, une émancipation chez la personne de participer à ce type d'action, ou au contraire, ça pourrait aussi être difficile pour certaines. En tout cas, dans les réponses qu'on a actuellement, même si l'étude n'est pas finie, c'est qu'on a plusieurs situations. Et effectivement, pour certaines personnes, je vais juste faire un laïus là-dessus, un exemple. Il y a une personne, quand elle a compris qu'elle allait être payée, elle a dit, moi, si je suis payé, je pars du collectif. Parce qu'en fait, si je suis tombé dans la précarité, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai vécu un burn-out au niveau du travail, j'ai eu une pression au niveau du travail, j'arrive pas à gérer ces émotions-là. Et du coup, là, moi, j'ai envie de participer à ma manière, à ma façon, sans pression, surtout sans pression. Et ce que vous êtes en train de me dire, c'est que si je suis payé, je vais me remettre dans cette pression et que du coup, je vais retomber dans mes travers. Donc, je trouvais que quand elle a amené ça, il y avait quelque chose de vraiment important et en même temps, qui remettait en question le système, puisque du coup, notre gouvernance était de se dire, non, on reconnaît vraiment le travail de chacun et l'expertise de chacun, et du coup, sous une forme salariale. Mais du coup, on a évolué, tout est possible. Maintenant, toujours avec une éthique, moi, je trouve intéressant de travailler avec des sociologues, avec différents chercheurs qui vont nous alerter sur certaines choses. Aujourd'hui, par exemple, le collectif Soif, dans la dernière étude qui a été menée, on nous a dit qu'on n'était pas assez conflictuel, pas assez contradictoire dans nos manières d'être, et que du coup, tout était consensuel dans notre groupe. Eh bien, ça, c'était un travers aussi qu'on ne souhaite pas, mais qui est arrivé peut-être malgré tout, parce qu'on se connaît mieux aujourd'hui, et peut-être qu'il faut justement amener des éléments nouveaux pour éviter, peut-être quelque chose effectivement de trop consensuel et trop formaté. Voilà.
Juste la question là de l'étudiante qui réagit, forcément, ça c'est quelque chose qu'on observe. Enfin, les nouveaux dispositifs ou les nouvelles actions amènent de nouvelles questions à prendre en compte, quoi, à chaque fois, dans ce que tu dis aussi, quoi.
Alors déjà cette personne-là, si moi j'avais été en face, moi je suis père aidante, je ne suis pas professionnelle, donc je leur ai dit peut-être que tu t'es planté de métier. Parce que si déjà dans le social, tu n'es pas humaine et tu n'es déjà pas dans l'idée de partager tes savoirs, déjà peut-être qu'elle s'est trompée de branche. Vous voyez, après, ce n'est pas très compliqué. Il ne faut pas non plus des fois essayer de trouver des théories. Voilà. Et en fait, toutes ces questions-là se posent parce que je pense qu'à la base, on ne s'est pas posé la bonne question initiale. Quel est l'intérêt pour cette personne ? Elle vous apporte, elle vous nourrit. Mais à la base, elle, quel intérêt ça va avoir pour elle ? Elle est en fracture de vie, qu'elle choisisse d'être bénévole et tout ça. Si on se dit déjà au démarrage, on sait à quoi va nous servir, mais maintenant, en même temps qu'on va la solliciter, on va penser à son intérêt, à elle, future. On commence... C'est parce que moi, je suis tombée sur une bonne coordinatrice au CNPA qui m'a dit dès le démarrage, Carole, les heures que tu fais, il faut les noter. Parce que demain, tu ne sais pas où est-ce que tu vas en être. Et si tu veux, si tu as réussi à enclencher la machine qui était dans l'insertion, tu pourras utiliser ça pour une réinsertion professionnelle. Voilà. Donc déjà, à la base, il faut penser comme ça. Je pense que c'est plus facile. Après, il y a plein de choses. Ouais, parce que du coup, ça met aussi... Alors, vous parlez d'éthique. J'aime bien ce mot-là, mais enfin, la base, c'est sens moral. Je pense que c'est le sens moral, on l'a ou on l'a pas. Mais avant d'être travailleur et tout ça, en tant que personne, on a le sens moral ou on l'a pas. Donc, il faut se re-questionner soi en se disant... Enfin, vraiment soi-même, quand j'interpelle, quand je demande à quelqu'un de faire quelque chose, faut pas que seulement ça soit juste pour moi, quoi. Faut que ça soit pour tout le monde. Il faut dès le démarrage penser à... Oui, je pense qu'il y a ça aussi. Je pense qu'il faut s'impliquer au point de lui dire tu as des possibilités après, selon les heures que tu fais. Tu as fait à peu près ça, je ne sais pas, moi, de l'animation ou je ne sais pas. Et tu as la VAE, tu as le compte personnel d'activité. Si tu es rémunéré, ça aussi, c'est super ambigu comme question. C'est super fragile parce que tu touches 200 euros pour une... et on te retire 250 euros d'aide. Donc, ça te fout encore plus dans la difficulté. Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser à la base. Avant. Donc, c'est vrai que, comme dans beaucoup de situations, il y a une machine qui s'est mise en route, mais trop vite, sans avoir toutes les réflexions de base. Et il y a une dame qui disait, arrivé à un moment, on devient plus ou moins des professionnels et ça demande de retourner chercher des gens. Et ben oui, c'est ça, en fait, la participation. C'est pour ça qu'elle est aussi fatigante et qu'on ne veut pas se faire chier avec. C'est parce que ça demande de refaire, de faire, de faire et de refaire avec des personnes différentes, avec des parcours de vie différents, avec un niveau de connaissance, de capacité, de vie. C'est ça qui est très fatigant, la participation. Et c'est plus facile de l'ignorer que de vouloir prendre le temps de l'intégrer. Et j'arrête pas d'entendre depuis tout à l'heure, en fait, on les trouve où, ces personnes ressources? Mais c'est souvent, je dis ça au ministère, j'ai dit, vous savez, vous prenez le métro, en fait, mais il y a plein de gens qui sont là, vous avez juste à aller les voir, vous leur demandez, vous rentrez dans une structure, vous dites, tiens, on veut travailler, je sais pas, bon, je suis pas sûr sur l'autisme, voilà, hop, tu rentres dans la structure, tu vas voir ces jeunes-là, et tu leur demandes, à eux-mêmes, s'ils veulent venir participer à une journée pour partager leur point de vue. Enfin, c'est marrant, ça, qu'on n'ait pas l'idée, quand on va faire un truc, d'aller vers nous-mêmes, vers ces personnes-là. Mais après, vous voyez, c'est là qu'on voit le fossé entre cette partie, parce que c'est pareil, il y a énuméré beaucoup de savoirs, enfin moi j'en vois que deux, hein. Le savoir théorique et le savoir vécu. Hein. Après, c'est une mixité, c'est même presque normal de mélanger ces deux-là. Comme disait tout à l'heure la dame, là, il suffit de considérer et tout rentre dans le. Il suffit de considérer la personne et tout rentre dans le mouvement. Oui, c'est vrai. Il y a plusieurs savoirs. Ils sont nommés, mais enfin voilà, la théorie et le vécu. Mais c'est ce qu'on discutait aussi l'autre jour. Ça devient super compliqué, hein, sur ce guide, parce que justement, ce que je vous disais, un éduc qui est à la rue, vous allez lui apprendre quoi? Quelle posture vous êtes en face de lui? Donc il faut savoir lui répondre que là, aujourd'hui, lui, il s'est mis dans la posture d'un apprenant théorique et que c'est une autre personne qui va apporter son expérience vécue. Et que c'est aussi légitime que si c'est lui qui voulait le transmettre. Mais à ce moment-là, moi, je sais pas, moi, je dis aux étudiants, mais si toi, tu as vécu la précarité, que tu la vis, que tu veux venir travailler avec nous, ben, on travaille tous ensemble. C'est pas forcément, on était deux là, il y avait un professionnel, il y avait moi, et du coup deux étudiants qui étaient en situation de précarité sont venus présenter cette journée avec nous. Comme ça, à lever de main, parce qu'eux aussi étaient dans la précarité, qu'ils avaient autre chose à transmettre. Et donc du coup, on part de deux personnes, par exemple, à tout un groupe. Il faut peut-être imaginer que dans ces étudiants, ils participent aussi et que tout le monde apporte son savoir à son niveau, quoi. Et aussi en tant qu'étudiant. Voilà.
Une aphoriste.
Du côté de l'Unaphoris. Un acteur de l'économie sociale et solidaire.
Unaphoris.
Sur le trottoir d'à côté.
La web radio de l'intervention sociale.
Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale.
Unaphoris.
Sur le trottoir d'à côté.